זה ונצליח. Alors on voit Baruch Hashem qu'on est au lendemain de l'Ag BaOmer. On voit que les séfarades ont pour coutume de se raser la barbe et de reprendre des fiançailles à partir du 34e jour du Omer et pas du 33e jour du Omer comme nos frères Ashkenaz. Pour quelle raison cette petite différence? C'est un point qui est essentiel, qu'il est bon de rappeler. Effectivement, l'épidémie entre les élèves de Rabbi, qui a frappé les élèves de Rabbi Akiva durant les 33 premiers jours du Omer, s'est arrêté au 33e jour du Omer. Ça, c'est vrai. Par le mérite de tous les événements qui ont lieu à l'Ag BaOmer, la semaine dernière, dans le Shiur, on a rappelé les nombreux événements qui ont lieu en ce jour, pas uniquement la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Par rapport à ça, on voit quoi? On voit en réalité que bien que l'épidémie ait pris fin le jour du 33e jour du Omer, il y a quand même des élèves, près de 900 élèves qui ont été enterrés le jour de l'Ag BaOmer. De ce fait, nous, on célèbre la Hiloula du Tzadik à l'Ag BaOmer, les séfarades, mais on ne sortira de façon concrète, donc on va célébrer les fiançailles et les mariages, et on va se raser la barbe, pour ceux qui ne gardent pas une petite barbe toute l'année, et on va se couper les cheveux le jour de l'Ag BaOmer, le lendemain de l'Ag BaOmer. Pourquoi? Tout simplement, en souvenir de tous ces élèves qui ont été enterrés le jour du 33e jour du Omer. Voilà, ça c'est un point qui est important. Très souvent les gens ils posent la question, pourquoi, si c'est l'Ag BaOmer, pourquoi on fait pas, pourquoi on se rase pas la barbe, pourquoi on se coupe pas les cheveux, pourquoi on doit attendre? Voilà, vous avez la réponse. Tant Bezrat Hashem, on voit que dès qu'on sort de l'Ag BaOmer, la préparation à Shavuot, elle devient de plus en plus intense. Tout simplement parce qu'il faut rappeler que la fête de Shavuot, elle s'appelle Shavuot au nom des 7 semaines qui séparent la sortie d'Égypte jusqu'au matin de Torah. Il y a 7 semaines entre eux. Pessah et le matin de Torah. Baruch Hashem. On voit que la première fois que le conte du Homer a été fait, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est justement au moment de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on va faire le Lichem Ichoud, qui a été composé soit par le Ben Ishraï, soit par le Chida, les Lichem Ichoud que l'on dit avant de faire la Mitzvah, c'est quoi un Lichem Ichoud? Il y a beaucoup de gens, ils voient dans les nouveaux Sidourim, les fameux Lichem Ichoud, au nom de l'union avec Dieu. C'est quoi en réalité? C'est pour nous rappeler l'essentiel des intentions qu'il y a dans une Mitzvah. Effectivement, on nous rappelle dans la Gemara qu'une Mitzvah sans attention, c'est comme un corps sans âme. Mitzvah bli kavana, kegouf bli neshama. Donc de ce fait, lorsqu'on va faire une mitzvah, il faudra toujours l'accompagner d'une intention. Il y a certaines mitzvot, on voit que l'intention va primer pour l'accomplissement de ces mitzvot-là. Si on n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, on ne peut pas considérer que la mitzvah a été faite concernant certaines mitzvot. On va donner un exemple concret. Un monsieur qui va mettre des tulines, mais qui n'avait pas l'intention de faire la mitzvah, on ne va pas considérer qu'il aura fait la mitzvah. Non seulement il faut qu'il mette les tefillines pour faire la mitzvah, non seulement il faut qu'il fasse au minimum Shema Israël pour faire la mitzvah, mais en plus, lorsqu'il portera cette tefillines, il ne faudra surtout pas qu'il oublie qu'il porte cette tefillines. Sinon, il n'est pas acquitté de la mitzvah. Une des raisons pour lesquelles on rapporte, parmi les décisionnaires, qu'au moment de faire la Amida, lorsqu'une personne s'emplit de toutes les intentions qu'il y a durant la prière, au moment de se lever pour faire la Amida, il sera bon, au moment de se lever, de s'attraper les tefillines de la tête jusqu'à qu'on ait fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, et que qu'on se soit prosterné pour la première fois dans la Amida. D'accord? Il faut garder la main sur les tefillines pour pas oublier qu'on est en train de faire la mitzvah des tefillines. Alors c'est quelque chose qui est... Oui. Ils leur font faire Shema Israël.
Donc,
c'est ce que je viens de dire. Il faut.
Mais ils n'avaient pas l'intention de mettre des tefillines.
C'est-à-dire?
Non, parce que vous avez dit.
On leur dit, ce sont des tefillines, mettez les tefillines, faites la bracha, faites le schéma. Comment ils peuvent ne pas avoir l'intention de mettre les tefillines? Il n'y a aucun problème. J'ai bien expliqué. Pour faire la mitzvah au minimum, il faut réciter le Kriyat Shema. Minimum.
Non, mais en gros, il y a pas... ce qu'elle veut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de cabana dans les gens, les passants.
Voilà, c'est ça, je pense que la cabana.
Si, il y a la cabana, il leur explique. Excusez-moi. Les gens leur expliquent. D'accord ? Baruch HaShem, donc il n'y a aucun problème. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il faut avoir l'intention d'accomplir la mitzvah et de ne pas oublier qu'on est en train d'accomplir la mitzvah. Lorsqu'on est en train, donc on voit ici que l'intention, la kavana, est primordiale. C'est quelque chose de très important. On doit comprendre ici quelle doit être notre attention durant le décompte d'Omer, ou le compte d'Omer, comme vous préférez, pour se préparer à Shavuot. Le Rambam y rapporte qu'une personne, chaque jour, elle doit acquérir la Torah. On voit lorsqu'on sort le Sefer Torah, j'ai déjà expliqué la semaine dernière, on fait la halakha, on va prendre le Sefer Torah et on le fait tourner dans la synagogue. On nous rapporte dans la Gemara qu'une des façons, d'acquérir un objet, c'est au minimum de le prendre, de le transporter ou de le soulever. Et on voit qu'on ajoute à cela la Hagba. On vient et on soulève la Torah. On voit ici qu'il y a une petite différence. Chez nos frères Ashkenaz, ils vont faire la Hagba après la lecture. Alors que nous, on fait avant la lecture. Pour quelle raison ? Parce qu'ils estiment, du fait d'avoir fait la Holacha, d'avoir transporté le Sefer Torah avant, tout le monde a compris qu'on est en train d'acquérir le Sefer Torah. Et la personne qui transporte le Sefer Torah, elle devient la missionnaire du Kahal, de l'assistance, pour faire l'acquisition de la Torah. Quand on va lire la Torah, on fait acquisition de la Torah. Raison pour laquelle une personne, lorsqu'elle va faire la bracha devant le Sefer Torah, il faut qu'elle touche le Sefer Torah. D'accord ? Alors on voit qu'il y a une halakha qui nous rapporte que lorsqu'on monte à la Torah, et lorsqu'on va faire la bénédiction, il faudra cacher le parchemin de la Torah. Pour quelle raison ? Pour que les gens ne viennent pas à penser que la bénédiction qu'on est en train de réciter est inscrite dans le Sefer Torah et qu'on s'est permis de rajouter des textes aux textes d'origine qui nous ont été donnés par Moshe Rabbeinu de la bouche de Dieu lui-même. D'accord ? Concernant les lois de la Torah, et puis aussi tous les récits qui ont été écrits par Moshe Rabbeinu dans la Torah. Donc, qu'on ne vienne pas se permettre de penser qu'on a ajouté au texte de la Torah. Donc, de ce fait, soit si c'est un rouleau que l'on pose sur des etzraim, sur les bâtons de bois, d'accord ? Quand on le pose, on fermera le rouleau. Quand c'est un Sefer Torah dans une boîte, dans une teva, comme le veut le Rambam, et comme est la coutume dans la majeure partie des communautés séfarades, mis à part quelques communautés du Maroc, donc on voit quoi ? On voit que soit on ferme le Sefer Torah, soit on prend un foulard. Et ce foulard-là, on va, avec ce foulard, couvrir le Sefer Torah pour faire la bénédiction. Et pencher notre tête du côté droit, d'accord ? On est toujours à droite du Sefer Torah lorsqu'on monte à la Torah. Pencher notre tête à la direction opposée du Sefer Torah. Pour que les gens ne viennent pas penser qu'on est en train de faire la bracha. Donc de ce fait, quand on vous demande de faire la bénédiction, si vous ne remarquez pas dans la synagogue, il y a toujours une petite fiche, une petite plaque. Soit elle est collée sur une belle plaque, où il y a une belle plaque qui est derrière le Sefer Torah, il faut un peu se pencher sur la droite pour ouvrir la bracha, soit elle est posée un peu derrière le Sefer Torah, donc on doit encore se pencher sur la droite. C'est une méthode qu'ont trouvé les rabbanim pour permettre aux gens d'accomplir cette mitzvah de façon essentielle pour que les gens ne viennent pas à penser que la bracha est inscrite dans le Sefer Torah. Mais au moment où on fait la bracha, on acquiert la Torah. Au moment où on lit la Torah, on acquiert la Torah. Au moment où on fait la Hagbara, on acquiert la Torah. Pourquoi autant d'actions pour acquérir la Torah ? Au moment de la lecture. C'est pas la question. Le Rambam rapporte, tout simplement, que chaque jour, une personne doit acquérir la Torah. Comment on acquiert la Torah ? À travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et le jour suprême où on renouvelle notre alliance avec Dieu et que l'acquisition se refait, c'est le jour de Shavuot, le jour où Dieu nous a donné la Torah. Alors ce qui est très sympathique, c'est qu'on voit que Shavuot est appelé comme Pessah, Chag Herutein, la fête de notre délivrance. Chachamim disent, Al tikra Herutenu ela Charutenu. N'appelle pas ça la délivrance, mais lorsque nous sommes fait graver dans notre chair les lois de la Torah. C'est une alliance qui est gravée dans notre chair. On voit bien que pour les hommes qui ont l'obligation de faire la Torah, il y a une mitzvah qui est donnée pour le garçon. D'un point de vue technique, c'est difficile de la donner aux filles. Donc, c'est la mitzvah de la Brit Mila. On enlève le prépuce pour se marquer dans notre chair, entre guillemets, de l'alliance. Comment on appelle cela ? La Brit. C'est quoi Brit ? Brit Mila. Mila, la parole. L'alliance de la parole. Quelle parole ? Oui ou non ? L'entrejambe, c'est devenu un endroit qui parle. On dit tout simplement que cette alliance de la parole, c'est l'alliance de la Torah. Et qu'un homme, il doit prendre l'engagement d'être saint en appliquant la Torah. Et s'il arrive à être saint en gardant son cerveau entre ses deux oreilles et que son cerveau ne vienne pas se déplacer dans son entrejambe, alors il pourra être appelé Kadosh. Donc, on voit par rapport à ça que c'est un point qui est essentiel. Pour la même raison, on impose aux femmes les lois de la pudeur. Pour quelle raison ? Pour que les femmes elles-mêmes, au lieu d'utiliser leur corps comme un outil de charme, qu'elles comprennent que ça doit être leur neshama, l'outil de charme. Comme on rapporte dans Eshet Ra'il, d'accord ? Que la beauté et la grâce d'une femme physique sont considérés chez Kerachen ve'evel ayofi. Ira ira tachem ititalan. D'accord ? Mensonges sont la beauté, d'accord, et la grâce d'une femme. C'est uniquement la femme craintive de l'Éternel qui sera louée aux yeux de l'Éternel et considérée comme une femme belle. Ce qui veut dire que la beauté, ce n'est pas une beauté physique. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une beauté physique. Parce que la beauté physique, avec le temps, elle est appelée à s'évanouir. Les années passent et ne reviennent pas. De ce fait, comment une personne doit se construire ? Sur le plan intellectuel et spirituel. C'est ce que nous donne la Torah. On ne se base pas sur notre physique, on se base sur notre intellect. Les sages de la Torah, ce ne sont pas des petits jeunes, des Apollons, qui gagnent des championnats. Ce sont de vieilles personnes qui ont bien vécu, qui ont l'expérience de la vie, qui ont vécu de façon sage, qui ont le Da'at HaTorah, qui ont la sagesse de la Torah, que ce soit des hommes ou des femmes, et eux sont appelés les sages. De la même façon, qu'est-ce qu'on dit dans Maseret Avodah Zara ? Comment tu choisis ton rav ? Dans sa façon de manger, de se comporter, de parler, de s'adapter au tzibour, de savoir se mettre au niveau des gens, de descendre de niveau pour ramener les gens avec lui. Si on a l'impression que ce rav se comporte comme un ange, alors on peut le prendre comme rav. On ne nous parle pas de connaissance, on parle de comportement. Une personne sage, ce n'est pas une personne qui connaît beaucoup de choses. C'est ce qu'elle connaît, elle applique bien. Bien sûr qu'elle connaît énormément de choses, mais elle se l'applique elle bien. Donc ça, c'est la chorma de la Torah, c'est le Da'at HaTorah. Les connaissances, ça ne sert pas uniquement à dire qu'on est sage. Parfois, on peut avoir des gens qui peuvent connaître toute la Torah et être de véritables mécréants. Ça existe. Donc, par rapport à cela, et on le voit. On le voit, je sais que je le rappelle à chaque fois, mais quand on voit Yaakov et Esav, par exemple, on nous rapporte que Esav, c'était un homme plus sage, plus intelligent que Yaakov. Mais au niveau de sa façon d'appliquer la Torah, il appliquait beaucoup moins les choses. Donc, il connaissait toute la Torah que son père, Yitzhak, lui a enseignée, mais il n'appliquait pas. De ce fait, comment il a appelé, par rapport à Yaakov, un mécréant. Yaakov, qui était beaucoup moins intelligent, devait faire un effort. De devoir rester pour étudier et encore étudier dans le Beth Midrash de son père, dans la fameuse Moustan de Yitzhak, pour étudier, pour essayer de comprendre ce que Esav comprenait en 5 minutes. De là, on nous enseigne que parfois l'intelligence, c'est une plus grande épreuve que la sottise. On dit que quelqu'un de simple, il devient avec le temps parfait. Comment on dit simple ? On dit tam. Comment on appelle quelqu'un de parfait ? Tamim. Donc, en réalité, la simplicité peut mener à la perfection, parce que la personne ne va pas se poser trop de questions. De ce fait, en ne se posant pas trop de questions, elle arrive à avancer plus facilement sur le chemin de sa vie. Et on le voit. On peut connaître des gens avec des diplômes dans la vie de tous les jours, dans la vie active, qui ont énormément de diplômes, qui ont une capacité d'analyse, de travail, de comportement extraordinaire, bien au-dessus de la moyenne, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Pardon ? Il faut avoir un minimum de connaissances pour acquérir des diplômes.
Il y a des gens qui sont intelligents.
Oui.
Qui sont intelligents, comme ça.
Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Donc on est en train de dire quoi? On est en train de dire que parfois on peut voir des gens qui vont avoir énormément de diplômes, énormément de connaissances, mais qui n'auront pas la faculté, la capacité de se débrouiller dans la vie. Alors qu'on en a d'autres, d'accord, qui sont capables de se débrouiller très très bien en n'ayant pas du tout le même niveau d'instruction et n'ayant pas du tout les mêmes diplômes.
On voit ça tous les jours.
Hein ?
On voit ça tous les jours.
D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on appelle le brain street. Donc, ça veut dire quoi ? L'intelligence de la rue, en réalité. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? On voit en réalité que l'intelligence, ça ne se calcule pas en matière de diplôme et en matière de notes. Et on voit qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout a été catégorisé, schématisé par rapport à des cases avec des diplômes, des résultats et des notes. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On s'en fiche des diplômes, on s'en fiche des notes, on s'en fiche de l'intelligence, on regarde le comportement de la personne. Si elle a un comportement moral ou immoral. Elle peut tout connaître. Si son comportement est immoral, ça ne nous intéresse pas. On voit que Aristote, en matière de philosophie, a développé de grandes thèses, d'une très grande moralité. Et un beau jour, ils ont attrapé Aristote dans une orgie, en train de faire des choses un peu pas très morales. Il avait des mœurs un peu particulières. Les gens l'ont attrapé et dit, toi Aristote, le grand philosophe, tu nous enseignes la morale, et tu te comportes de cette façon-là. Et tu dis, mais moi, je sais ce qui doit être, et je vous explique ce qui doit être. Mais je ne vous ai jamais dit de faire ce que je fais. Alors que chez nous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le véritable sage, c'est celui qui s'applique à lui-même ce qu'il vous dit de faire. Et qu'est-ce qui s'applique à lui-même? Les lois de la Torah. Comment il le fait? Chaque jour, en s'appliquant à lui-même les lois de la Torah et en étudiant chaque jour. Vous savez, il y a les jeunes Nathan, c'est des jeunes intelligents, c'est marqué sur les boîtes de 7 à 77 ans. Eh bien, la Torah, c'est super intelligent et c'est de zéro jusqu'à l'éternité. Non stop. Et en réalité, on voit quoi? On voit que de cette façon-là, pour acquérir la Torah, donc, il y a besoin de le préciser et de le dire aux gens et de leur signifier. Raison pour laquelle, lorsqu'on sort un Sefer Torah dans une synagogue, il y a toutes ces actions autour du Sefer Torah. De le transporter, de le soulever, de le cacher. Quand on a le Sefer Torah avec le Etzraïm, une personne qui a le Sefer Torah avec le Etzraïm, au moment de réciter la bracha, elle doit attraper le Etzraïm. Elle doit attraper les deux poignets. Il y a certains poskim qui estiment qu'à chaque fois qu'on dira le nom de Dieu, il faudra soulever un peu le Sefer Torah pour acquérir la Torah. D'autres poskim qui vont dire non, c'est pas beau, on a l'impression que le Sefer Torah, tu l'as rendu Dieu. Donc, il y a deux coutumes à ce niveau-là, mais il faut l'attraper le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que tout ça, c'est pour nous expliquer que cette Torah-là, on doit l'acquérir, mais ce n'est pas uniquement là, souvent. C'est aussi en l'étudiant, en appliquant les mitzvot. Alors moi, j'attends une question que vous n'avez pas posée. Vous êtes arabe. Vous êtes en dire qu'on doit acquérir la Torah. Mais les acquisitions, c'est interdit durant les Shabbat et les jours de fête. Et pourtant, le Sefer Torah, on est en train de faire un kinyan. Oui ou non? Oh. Qu'est-ce qu'elle nous rapporte, la halakha? Dans la halakha, l'acquisition n'est pas interdite. Le jour de Shabbat, le jour de fête. Pourquoi on a interdit l'acquisition? De peur que les gens viennent à vouloir signer leur contrat d'échange commerciaux durant Shabbat ou Yom Tov. De ce fait, les kinyanim ont été interdits. Les acquisitions ont été interdites. Mais quand il s'agit d'acquérir une mitzvah, d'accord, il n'y a aucun problème. L'interdit tombe. C'est dans le cadre d'une grande mitzvah. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que à Shavuot, donc, pourquoi on nous dit Chag, Chavutenu? Parce que la Torah, elle est gravée en chacun d'entre nous. Comment? On rapporte sur Rabbi Akiva, dont on a beaucoup parlé durant cette période, dont on parle beaucoup, que Rabbi Akiva, au moment de faire Teshuvah, avant de, entre guillemets, c'est pas une très bonne chose de dire qu'il a fait Teshuvah, premièrement, Parce que Rabbi Akiva, toute sa vie, il a été pratiquant. Il a toujours été religieux. De toujours. Cependant, il avait du mal à comprendre la Torah. Il n'était pas intelligent. Ce n'était pas un homme intelligent. À un tel point que c'était devenu le rustre de sa ville. Les gens savaient que c'était un homme rustre, frustré de son manque de compréhension de la Torah. À un tel point que la Gemara nous dit que lorsqu'il voyait un sage, un Talmid Racham, il avait envie de le prendre et de le mordre comme un âne jusqu'au sang. Tellement ça l'énervait. Il se disait, pourquoi lui comprend et pas moi? Et ça l'a énormément frustré. À un tel point que personne n'était disposé à donner sa fille en épousaille à Rabbi Akiva. Jusqu'à qu'il y ait une fille, les gens ne savent pas, qui était la fille de Kalba ben Savoie. Kalba ben Savoie, à sa génération, il faisait partie des hommes les plus riches d'Israël. À lui tout seul, et avec deux autres de ses amis, ils ont été en mesure de nourrir toute la ville de Jérusalem. Je ne sais pas si vous entendez. C'était un homme extrêmement riche. Il avait une fille qui s'appelait Rachel. Rachel, elle a vu ce monsieur qui était frustré de son manque de connaissances en Torah. Elle a vu en ça un potentiel. Elle a dit, celui-là, il s'énerve tout le temps avec les rabbins, il s'énerve tout le temps avec les tamid des chachamim, il est frustré. C'est qu'il a envie, mais qu'il n'arrive pas. Elle part le voir, elle lui dit, voilà, moi, je vais te proposer une chose. Je suis disposé à t'épouser à une condition. Tu vas étudier. Tu vas apprendre. Arrête d'être frustré, va étudier, va apprendre. Rabbi Akiva, il dit, c'est monsieur là, c'est quoi cette histoire? Mais c'est l'occasion, la chance de sa vie de pouvoir commencer à étudier. Rabbi Akiva, il a quel âge à ce moment-là? 40 ans. C'est pas un petit jeune. C'est pas un petit jeune. Et là, à ce moment-là, il va s'isoler. Là où il avait l'habitude de garder son troupeau, il y avait une cascade. Avec un rocher en bas du cascade, il va rester là-bas des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et il va voir, au fil des jours, il va réfléchir. Est-ce que je l'épouse? Est-ce que je vais étudier? Est-ce que je suis capable? Je suis pas intelligent? J'ai pas la chorma? Et là, il n'avait pas fait attention, il y avait un rocher devant lui, et avec la cascade, il y avait des gouttes qui venaient, qui goûtaient sur le rocher. Petite goutte par petite goutte. Il est resté des jours et des jours. Au fur et à mesure qu'il restait là-bas, avec un très grand temps de réflexion, il s'est rendu compte au fil des jours que chaque petite goutte arrivait avec, par phénomène d'érosion, à creuser un petit trou dans la pierre. Il s'est dit, si une goutte d'eau peut creuser dans la pierre, la Torah qui a été donnée avec des lettres de feu, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est important, la Torah qui a été donnée avec des lettres de feu, elle peut arriver à percer un petit trou dans mon cœur de chair. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva, il a fait un kinyan, il a compris que la Torah, il devait la graver dans sa chair. À partir de ce moment-là, Rabbi Akiva va épouser Rachel. Attendez, c'est un bon juif. Il n'est pas parti étudier tout de suite. Ils sont restés mariés, ils ont eu des enfants. Et là, sa femme, elle lui dit, écoute, on avait convenu que tu allais étudier. Va étudier. Il dit, écoute, si je vais aller étudier, tout le monde va se moquer de moi. Écoute, je veux bien aller étudier à la synagogue une heure ou deux. Non, non, non. Je veux que tu ailles à la yeshiva du matin jusqu'au soir, que tu étudies. Je veux que tu ailles à la maternelle, apprendre le alphabet avec les enfants. Je veux. C'était ce qui était convenu au moment du mariage. Kalba ben Savoie, lorsqu'il voit que sa fille épouse un berger rustre, sauvage, renie sa fille. Quand on voit en plus qu'il refuse d'aller étudier comme elle est convenue avec lui, là il renie totalement sa fille. Il est fâché avec sa fille. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Akiva va être mis au pied du mur par sa femme. Elle veut dire, écoute, voilà, tu veux pas étudier, j'ai compris, tu peux me rendre service, tu peux ramener notre âne. Et elle prend l'âne, et sur l'âne, elle met de l'engrais, sur le dos de l'âne. Elle plante des graines. Elle cultive. Et là, il y a des plantes qui commencent à pousser sur le dos de l'âne. Et une fois que les plantes ont poussé, elle attrape son mari et dit, écoute, rends-moi un service. Va faire les courses au marché, prends l'âne avec toi. Et lui dit, écoute, je veux bien, mais un âne, en général, on le prend, c'est pour charger les courses. Là, avec tout ce que tu lui as mis sur le dos, je ne peux rien mettre. Non, mais c'est pas grave, je t'ai demandé de le faire. Tu veux pas aller étudier? Au moins, fais ça pour moi. Bon, très bien. Prends l'âne, va au marché. Quand les gens le voient arriver, il dit, attends, qu'est-ce que tu l'as pris à celui-là? Il a mis des pots de fleurs sur tout son âne. Il veut faire des courses. C'est lui qui est en train de porter des courses. Son âne est avec des fleurs. Tout le monde se moque de lui. Il se moque. Il rentre à la maison. C'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable. Tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi. Ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème. Tu veux pas étudier. La semaine prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe. Il retourne. Comme ça, à chaque reprise, il va. Les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de taquiner Rabbi Akiva, de lui poser des questions pour le mettre à l'épreuve, estimant qu'il était trop vieux pour étudier avec les Bachori Yeshivot, pour le mettre à l'épreuve. Jusqu'au jour où Rabbi Akiva, lors d'un débat, va avoir gain de cause face au grand de la génération, Rabbi Eliezer. Ce jour-là, Rabbi Eliezer va reconnaître la grandeur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va aller étudier en yeshiva pendant une première période de 12 ans. Au bout de 12 ans, il rentre chez lui à la maison, il entend la voisine qui parle avec Rachel, sa femme, qui dit « Dis-moi, toi, t'as envoyé ton mari à la yeshiva. Ça fait 12 ans qu'il est parti, toi, tu restes fidèle à ton mari. Tu t'occupes des enfants, il t'a abandonné, t'as laissé dans la pauvreté. T'es une femme seule. Tu peux difficilement travailler la terre. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Tu ne veux pas demander à ton mari de rentrer ? » Et là, lui, il est sur le pas de la porte, il entend sa femme dire « Tu sais quoi, si mon mari rentrait aujourd'hui, je lui dirais « Ne rentre pas à la maison, retourne étudier à l'Yeshiva encore 12 ans. » De ce fait, Rabbi Akiva, il a étudié 24 ans. Au bout de 24 ans, Rabbi Akiva, lorsqu'il revient dans la ville de Jérusalem, ça devient le grand Rabbi Akiva, le grand de la génération, avec 24 000 élèves. 24 000 élèves qui ont étudié avec lui dans la pauvreté. Attends, comment Rabbi Akiva va au Yeshiva ? Lorsqu'il est revenu dans la ville de Jérusalem, au bout de 24 ans, c'est un vieux monsieur. Et là arrive Rabbi Akiva, le Gdol Hador. Et Rachel, sa femme, elle sait que c'est son mari. 24 ans, elle attend son mari. 24 ans. Et lorsqu'il arrive, elle se jette à ses pieds. Les gens lui disent, vieille folle, c'est le grand de la génération, qu'est-ce que tu le touches, qu'est-ce que tu t'approches de lui? Tu n'as pas honte? Pousse-toi de là. Et là, Rabbi Akiva leur dit, non, ne faites rien. Toute ma Torah, toute votre Torah, c'est par son mérite à elle. C'est sa Torah à elle. Si elle ne m'avait pas envoyé la yeshiva, si elle n'avait pas accepté de m'épouser, si elle ne s'était pas battue contre moi pour me convaincre d'aller à la yeshiva, je ne serais pas Rabbi Akiva, on n'aurait pas la Torah qu'on a eu aujourd'hui. Ça, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que après l'épidémie, il n'y a que 5 élèves de Rabbi Akiva qui vont survivre. Et ces 5 élèves-là, c'est eux qui vont être les gardiens du Talmud, de la loi orale qui a été reçue par Moshe Rabbeinu. Et toute la loi orale qu'on a reçue aujourd'hui, les Mishnayot et les Gemarot, qui vont être rédigées par la suite, mais qui vont être en réalité un condensé de tous les écrits qui ont été mis à l'écrit par les grands de la génération de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'an moins 20, avant notre ère, d'accord ? On voit quoi ? On voit que ce travail-là va être fait par les élèves des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on attend célébrer, il ne faut pas oublier que la source, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Mir Balanes, qu'on attend célébrer, la source, c'est Rabbi Akiva. C'est pas n'importe quoi. Baruch HaShem. Qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Akiva? Un homme idiot, de 40 ans, sauvage, rustre, qui se disputait avec les rabbins à la synagogue, qui a décidé de dire, non, moi je vais arrêter d'être frustré, je veux apprendre, je veux connaître. Il s'est devenu le grand de la génération. Si lui, il a pu devenir le grand de la génération, n'importe qui peut devenir le grand de la génération. C'est ça que nous enseigne l'histoire de Rabbi Akiva. Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, le roi des voleurs, il a inspiré le conte d'Ali Baba. Resh Lakish, ce fameux Resh Lakish, il fait teshuva à la vue de Rabbi Yochanan, Il a décidé, en voyant un tzaddik, voyant la lumière qui dégageait, l'intelligence qui dégageait, le comportement moral qu'il avait, le chef des brigands décide de faire teshuva et d'étudier avec Rabbi Yochanan pendant des années. Que lorsque Resh Lakish va décéder, Rabbi Yochanan n'arrivait pas à trouver une chevruta, un binôme, une personne avec qui étudier de la hauteur de Resh Lakish. Il a dit chevruta ou metuta. Soit vous me trouvez une personne du niveau de Resh Lakish, soit je préfère mourir. Il est parti de ce monde, Rabbi Yochanan. Oui.
Rabbi Akiva, c'est juste après la destruction du second temple, environ.
Rabbi Akiva, c'est avant. C'est
avant
à l'époque de la destruction du deuxième temple.
C'était avant.
Il a vécu la destruction du deuxième temple, Rabbi Akiva. Donc, on voit.
Une question. Donc, c'était aussi à l'époque de Hillel, alors.
C'était avant Hillel.
C'était avant Hillel. Ok. Donc, avant Hillel et Shammai.
Ouais, c'est avant. Okay. Il a les Shammai, les premiers de la génération, de la première génération des Tanaïm. Avant eux, il y avait les Zougot. Le dernier Zoug de grand maître qu'on avait eu, c'était Shmaïa et Avtalion. Et après, ça va être Hillel avec Shammai. Et là, c'est les premiers Tanaïm, c'est les premières générations de Tanaïm. D'accord. Et après, il y aura les générations des Amoraïm. Tanaïm, ce sont les maîtres du Talmud, de la Mishnah. Dans les maîtres de la Mishnah, il y a aussi les Zougot, d'accord, qui sont cités. Et après, il y a les Amoraïm. Ce sont tous les maîtres qui viennent commenter la Gemara. D'accord.
Un des élèves de Rabbi Akiva, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai.
Oui.
C'est un des cinq qui sont restés.
Oui.
Mais c'est toujours avant la destruction du temple, même Rabbi Shimon Bar Yochai, et toutes les épidémies, tout ce qui s'est passé. On est toujours avant la destruction du temple. Ils ont assisté à tout ça.
Pendant et après.
C'est pendant et après. Alors. On va continuer. C'est pas avant, c'était avant la destruction du deuxième temple. Ils vont vivre la destruction du deuxième temple, tous ces maîtres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? D'accord. On voit ici qu'il y a une chose qui est extraordinaire. On voit qu'à Shavuot, il y a un mizmor qu'on lit par rapport à tout ce qu'on a dit. Il est rapporté là-bas que les tzadikim yismechu ya'altsu lifnei Elokim ve'yasisu besimcha, qui vont se réjouir d'une très grande joie devant l'Éternel. Shiru l'Elokim zamru shemo sulu l'arochav ba'aravot beya shemo v'izlu defanav. Ils vont venir, ils vont chanter, ils vont louer devant l'Éternel qui lui chevauche la aravot. Vous savez c'est quoi la arava? C'est durant Soukhot, il y a une seule pleureur, ces fameuses feuilles, qui sont appelées aussi la Arava. Ici, Aravot, c'est quoi? C'est, on nous dit en réalité qu'il y a les septièmes cieux, d'accord? Il y a sept cieux supérieurs. Le septième cieux, qui est le plus haut pour nous, c'est Dieu, il est au-dessus de ça. Donc quand on dit Rochev Aravot, c'est qu'il est là-bas. Et que chacun des noms de Arba Minim, il a été choisi par rapport à un des noms des sept cieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient et qu'on prend les Arba Minim à Soukhot, on arrive à créer un équilibre matériel et spirituel dans le monde qui aura une influence sur la météorologie nationale de chaque pays où on se trouve. C'est joli quand même. Par rapport à ça, hein, ça dépend d'ici. On voit quoi par rapport à ça? On voit quoi? On voit dans ce qu'on est en train de dire. Si vous voulez, on va voir. La Aravot, on en prend combien? Deux. La Hadassim, on en prend combien? Trois. La Hadassim, on en prend trois. D'accord? Donc t'as deux et t'as trois. Le Etrog, on en prend combien? Un. Et l'Oulav, il y en a combien? Ça fait combien? Welcome. Alors maintenant, c'est les sept cieux. Donc, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de kavanot à avoir, beaucoup de choses à connaître dans notre Sainte Torah. Baruch HaShem. Et comment du matin de Torah, quand on renouvelle notre alliance, en réalité, quand on nous parle des impies dans les mizmor de Shavuot, qui vont être consommés par un feu. De quoi on est en train de parler ? On parle essentiellement des Bnei Israël qui pourront lutter contre le Yetzer Hara grâce au feu de la Torah. Comment ? En se gravant la Torah en eux. Comment ils gravent la Torah en eux ? En cherchant à acquérir la Torah chaque jour. Comment on acquiert la Torah chaque jour ? En étudiant la Torah et en l'appliquant. Quel est le jour de l'année où c'est l'apologie qui représente ça ? Le jour de Shavuot. Dans le Shulchan Aruch, on peut chercher en long et en large. Il n'est stipulé nulle part que le soir de Shavuot, on ne doit pas dormir et rester à la synagogue éveillée. Nulle part. Ce n'est pas une halakha. Ce n'est pas dans le Shulchan Aruch. D'où ça vient ? Tout simplement, les Bnei Israël, la veille du matin de Torah, au lieu de rester éveillés et de se dire, on va recevoir la Torah, Dieu va se dévoiler à nous, ils sont partis dormir. On dit, à cause de cette faute-là qu'ils ont fait, c'est ce qui a engendré la faute du veau d'or. Parce que les gens qui étaient avec eux, les Égyptiens qui ont décidé de se convertir et de sortir avec eux d'Israël, d'Égypte, ils n'ont pas vu la motivation des Israël à recevoir la Torah. Ils n'ont pas compris. Pourquoi on nous dit dans le Mizmor de Shavuot que Dieu siège dans les septièmes cieux ? Parce qu'il y a un grand tikkun qui est fait le soir de Shavuot. On rapporte que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Que Adam et Ève, lorsqu'ils ont fauté, on dit que la Shrina, la présence divine, elle se retirait de ce monde. La présence divine, elle est appelée par le tétragramme, le nom de Dieu qui a une valeur numérique de 26. Yud-ke, Vav-ke. Je déforme le nom volontairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un Yud, il y a un He, après il y a encore un Vav, et il y a un He. On nous rapporte que Dieu, ce qu'il représente, la lettre qui va représenter au mieux Dieu, voit qu'une des façons d'écrire le nom de Dieu, c'est deux Yud, l'un à côté de l'autre, dans certains sidourim. Le Yud représente une certaine entité d'Akadosh Baruch Hu, le début de la source de l'émanation spirituelle de l'Éternel dans ce monde, ce qu'on appelle la présence divine. Donc c'est le Yud. On dit que lorsque Dieu est descendu dans ce monde, vers Adam et Ève, et qu'ils ont fauté, il s'est retiré de ce monde. Lorsque le Yud vient, il descend, il forme un Vav. Le Vav, certains, on a certains chassidim qui, dans leurs règles de grammaire, a raison, appellent ça, soit le Yud, ils appellent ça le Vav court, soit le Vav, ils appellent ça le Yud long. Ce qui explique que, quand on lit certains mots comme « Adonai-nous », certains chassidim, au lieu de dire « Adonai-nous », ils vont dire « Adonai-nous ». Quand on dit « Malkenu », au lieu de dire « Malkenu », ils vont dire « Malkeni ». Ils ne vont pas dire le « Vav » comme un « Vav », mais comme un « Yud » en fin de mot. Donc le « Ou », ils le rendent « I ». Je ne rentrerai trop dans le détail. D'accord ? Donc de là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que c'est par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on nous dit en réalité ? On nous dit quoi ? Que Dieu, c'est un « Yud », sa présence, quand il est descendu ce monde, c'est qui est devenu un « Vav ». Et lorsque Dieu s'est retiré de ce monde, entre guillemets, sa présence divine s'est retirée de ce monde après la faute originelle, le Vav est redevenu un Yud. Et au moment du matin de Torah, c'est le Rochev Aravot, celui qui est au-dessus des septièmes cieux, qui va redescendre sur le Sinaï pour donner sa Torah. Kadosh Baruch Hu lui-même, qui se dévoile à 600 000 hommes. Mais si on compte les femmes et les enfants, c'est plus de 3 millions de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité, Baruch Hashem, que c'est un très grand secret qui est à ce niveau-là. À un tel point que le Ben Israël nous rapporte un fait qui est intéressant. On nous dit que lorsque la Géoula viendra, le nom de Dieu sera grandi. Itgadal, Itkadash, Shemer, Rama sera grandi et sanctifié, le nom complet de Dieu. De quoi on parle ? On parle du tétragramme. On nous rapporte que lorsque Amalek, au moment de la sortie d'Égypte, et après le matin de Torah, à plusieurs reprises, va attaquer les Bnei Israël, Dieu nous dit quoi ? Qui est Shiad Al-Kessia. C'est plus Yud-Ke, Vav-Ke, c'est Yud-He. Le nom est incomplet. Il manque le Vav et le He, à la fin. Pourquoi ? Parce que il y a Amalek qui est sorti en guerre et qui a montré que l'homme peut se révolter contre le divin alors que le divin s'est dévoilé dans ce monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on remet en question, est-ce que le monde a été créé par Dieu ? Il y a des associations dites créationnistes. Moi, je déplore parfois certains rabbins qui emploient ce terme. Les créationnistes à l'origine, ce sont des gens qui pensent que ce sont des extraterrestres qui ont créé le monde. Donc ils pensent que la création a bien été créée par un tiers, mais que ce tiers est une intelligence supérieure qui n'a rien de divin, qui serait extraterrestre. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'est-ce qu'on est en train de dire. On dit quoi? On dit que Akadosh Baruch Hu, en réalité, son nom est devenu incomplet. Pourquoi? Parce que Amalek a semé une brèche dans l'humanité pour permettre aux gens, non seulement de dire, si Dieu existe, je le remets en question, si sa Torah est vraie, je la remets en question, et prouvez-moi qu'il existe, pour que j'arrête de le remettre en question. Et là, on est tout à l'inverse de graver en soi la Torah. On est dans celui qui vient et qui détruit la Torah. Et un jour, il y avait un jeune garçon qui ne respectait pas les lois juives comme il se devait. Il a été ramené devant le Rav Yosef Chaim Sitruk. Et le père avait parlé. Il dit, écoutez, mon fils, il ne veut rien appliquer, on lui a donné une éducation, il ne veut rien entendre. Le Rav, il lui a dit, écoute, voilà, je vais te demander de faire une chose. Tu vois le Aaron HaKodesh, ouvre-le, sors le Sefer Torah. Le garçon, il écoute le Rav, c'était à l'époque le grand rabbin de France. Donc, il ouvre le Aaron, il prend le Sefer Torah, il dit, maintenant je te demande de prendre le Sefer Torah, de le jeter par terre et de l'écraser. Le garçon, très étonné, lui dit, monsieur rabbin, comment vous pouvez me demander de faire une chose pareille? C'est la Torah. Il dit, sache que toi, tu as un rouleau de Sefer Torah sur deux jambes. Le rouleau de Sefer Torah, il est saint. Il est très saint. Mais une personne humaine a un niveau supérieur. D'autant plus un juif qui étudie la Torah. Pour quelle raison? Tout simplement parce que une Torah écrite sur un parchemin n'est rien s'il n'y a personne pour l'étudier et l'expliquer. Et pour l'appliquer. De ce fait, le juif, lorsqu'il étudie la Torah, il a un niveau supérieur à un Sefer Torah. On voit les gens dans les synagogues, ils vont se lever pour un Sefer Torah, ils ne vont pas se lever pour un Rav. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir plus de respect pour un bout de parchemin que pour leur prochain. Je ne dénigre pas, Chas v'Shalom, il faut avoir énormément de respect pour la Torah et les Écritures saintes. Énormément. Il ne faut pas oublier, il faut remettre les choses dans leur contexte. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que ce garçon, lui, il a fait échouer, il a compris que lui, c'était un rouleau de Sefer Torah. Oh. Que sa vie, c'était un parchemin, et que ses actions, c'était l'encre qu'il écrivait sur son parchemin pour écrire sa Torah. Nos maîtres nous rapportent des marloquettes entre eux, où il dit, dans mon Talmud, c'est écrit comme ça, dans le tien, c'est écrit comme autrement. Une compréhension un peu différente, des mêmes lois. Shammai et Hillel, c'est comme ça qu'ils se parlaient. Il n'y avait pas de Torah. Il y avait chacun, par rapport à son vécu, par rapport à sa façon d'agir et d'appliquer la Torah, qui a écrit son propre Sefer Torah. Et malgré cela, regardez la force du clan d'Israël. Bien qu'on ait vécu en exil, séparés les uns des autres, dispersés à travers le monde, à des époques où il n'y avait pas la technologie pour nous permettre de communiquer comme il faut, lorsqu'on s'est tous retrouvés, on s'est tous retrouvés avec les mêmes sifrei Torah, avec les mêmes prières. Et le jour de Kippour, bien qu'on fait 3 prières chaque jour, le jour de Kippour, on fait tous 5 prières. C'est quand même fou. Baruch HaShem. Pour comprendre l'équilibre des choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous garants les uns des autres, on a tous besoin les uns des autres. C'est quoi le véritable Kinyan Torah? Ça passe par l'amour de son prochain. Vous savez pourquoi on célèbre autant Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Meir Balanes, même s'il a perdu ses enfants, il est resté le grand d'Israël. Il a passé son temps, il n'a pas pris le temps de subir ses épreuves. On rapporte que son épouse, Bruria, lorsqu'il a perdu ses enfants, c'était durant le Shabbat, elle n'a pas voulu que son mari s'endeuille durant le Shabbat. Elle lui a rien dit. À la fin du Shabbat, elle va le voir. Dis-moi, que doit-on faire si une personne qui nous a fait un cadeau, finalement, change d'avis et veut récupérer son cadeau? Rabbi Meir Balanes, il dit, ben, on lui rend. Il dit, ben voilà, Kadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau, c'est nos enfants, ils sont partis. Il dit, tof. Vous croyez qu'il a plongé en dépression? Vous croyez que sa vie, elle s'est arrêtée? Il est resté Rabbi Meir Balanes. Il a vécu Bemesirut Nefesh. Il a consacré sa vie pour le clan d'Israël, pour le bien-être de l'ensemble des Bnei Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même chose. Quand il va rester pendant 13 ans dans la grotte, c'est pour avoir le dévoilement des secrets de la Torah. Et aujourd'hui, regardez bien. Les gens qui veulent faire Teshuvah, lorsqu'on leur parle un peu de Zohar et de Kabbalah, et un peu des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout de suite ça les allume. Ils ont tout de suite envie de venir et d'étudier la Torah. La Chassidoute, qui a fait autant d'élèves à travers le monde et qui a permis de faire autant de teshuvah, se réclament tous élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une anecdote à ce sujet. Un jour, il y avait un rav qui a un de ses fils qui est devenu Breslev, qui est une bonne chose en soi. Et le fils a expliqué qu'il y avait une ségoula, une prière circonstancielle, d'emmener des enfants avant l'âge de 7 ans sur la tombe du Rav Nachman de Breslev, pour lire un ensemble de 10 psaumes qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Le Rav Nachman de Breslev lui-même enseigne que ces 10 psaumes-là ont été dévoilés à être lus ensemble par David Ameler lui-même. Il a redévoilé ça au monde, d'accord ? Et en réalité, et que c'est une bonne chose pour que les enfants ne soient pas tentés par leur entrejambe une fois qu'ils sont adultes, pour les petits garçons. C'est une ségoula. Et ce rav, il était embêté. Parce que son fils, qui était marié, qui a eu des enfants, il a amené tous ses fils là-bas. Et lui, ce rav, Dieu bénisse, comme il avait une famille nombreuse, il avait un de ses fils. Avant l'âge de 7 ans, il est parti voir son maître, le rav Mordechai Eliyahu, pour lui demander quoi faire, parce qu'on lui avait dit que c'était une mode ségoula. Lui, il a dit, peut-être que j'emmène mon fils jusqu'à Ouman, en Ukraine, pour lui faire cette prière. Et quand il est parti voir Rav Mordechai Eliyahu, Rav Mordechai Eliyahu, je vais te dire, t'as pas besoin d'aller jusqu'à Ouman. Va à Meron, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ces grands maîtres-là, ils sont issus de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est issu de Moshe Rabbeinu. Il est issu du clan d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch HaShem, il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler. Quand un homme, il vit Bémissirut Nefesh, alors il a le mérite d'être un grand. Un grand dans le clan d'Israël. On voit que nos grands à nous, c'était pas des hommes hyper riches. Rabbi Akiva, il a fini très riche, Dieu bénisse, parce que son beau-père a fini par le reconnaître. Il lui a ouvert une yeshiva pour entretenir ses 24 000 élèves. Mais, on voit quoi? On voit que tous les autres grands maîtres, c'est pas la richesse, ils couraient pas après l'argent. Ils couraient après les bonnes actions. Baruch HaShem. Par rapport à ça, on terminera là-dessus. On voit en réalité que à Shavuot, lorsqu'on va être dans les synagogues, qu'on va étudier, qu'on va pas dormir la nuit, qu'on va faire tout ce qu'on va faire, c'est pour faire ce kinyan de la Torah. On dit qu'on ne dort pas la nuit à Shavuot, ça fait deux réparations. Si durant la veillée de Shavuot, je ne dors pas de la nuit, j'étudie la Torah, et je ne me contente que de boire du café, de l'eau, du thé, d'accord ? Ça peut faire réparation pour ce qu'on appelle un chiyuv karet, une faute qu'on aurait fait, qui nous Riouf Karet, c'est pas ça. Non, on est retranché du clan d'Israël. Il y a des fautes, comme par coucher avec une femme. Je vous parlais, excusez-moi d'en parler autant. Je crois que dans le coin, on a besoin d'en parler, surtout dans cette ville, apparemment, avec l'histoire que j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, qu'est-ce qu'on voit? Ça concerne aucun des hommes qui sont là. Mais bon, Baruch HaShem, et aucune des femmes qui sont là. Mais bon, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que une chose qui est essentielle, on dit par exemple, une personne qui va aller coucher avec une femme qui est Nida. Donc, soit un célibataire qui va avec une jeune fille de chez nous, juive, d'accord? Ils ne sont pas mariés. Elle n'est pas allée au Mikvé. Et même si elle est célibataire, elle ne peut pas aller au Mikvé. Elle est Nida. Il va avec elle, Chiyuv Karet. Oh! Oh! Et même un homme marié qui va avec sa femme, et sa femme n'est pas allée au Mikvé, Riouf Karet, il est retranché du clan d'Israël. Alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas le Sanhedrin pour dire aux gens, hein, vous ne pouvez pas venir à la synagogue, vous êtes retranché. Non, il n'y a pas ça. Et dans le ciel, les prières, elles sont moins entendues. Quand on ne dort pas le soir de la veillée de Shavuot, ça fait la réparation pour une faute. Ce qui est une bonne chose. On nous rapporte que c'est bien, à chaque fois qu'on ne veut pas dormir la nuit pour étudier la Torah, en étudiant la Torah, Baruch HaShem, ça peut réparer une faute, à condition qu'on ne mange pas durant la nuit. On peut boire, mais ne pas manger. Et quand on boit, c'est pas boire de l'alcool, c'est boire du café, du thé, pour tenir à la veille. Ça fait la réparation d'une faute. Je suis désolé de me montrer aussi difficile, c'est par amour de mon prochain que je parle. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est passible du Riouf Karet, ses prières dans le ciel, elles sont un peu plus difficiles à être entendues par les anges et par Akadosh Baruch. Ces prières arrivent un petit peu moins au ciel. Alors, raison pour laquelle il y a une ségoula qui s'est instaurée de dire on va aller voir les rabbanim et demander aux rabbanim de faire des prières pour nous. Mais ça sert à rien. Le rav, c'est pas une tirelire, c'est pas une figoula, c'est pas une pochette magique qu'on vient voir et qui règle tous les problèmes d'une bracha. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour ça que ça marche, pour que la bracha du Rav marche, il faut aussi que la personne fasse un petit effort. Baruch Hashem. Donc maintenant, par rapport à ça, et on va terminer là-dessus, Be'ezrat Hashem, on voit quoi? On voit donc, le soir de la veillée, c'est bien, à partir de Chatzot HaLaila, c'est Chatzot HaLaila, de ne plus manger. D'accord? De boire. Boire, on peut. Manger, non. D'accord? C'est bien, ça fait... Hein? Ça dépend. Ici, c'est plus tard, ici, en France. Si plus tard ici, d'accord ? Voilà. Baruch Hashem. Et on voit ici, en réalité, que bien ce que cette coutume de ne pas dormir le soir de la veillée ne figure pas dans Shulchan Aruch, énormément de communautés à travers le monde ont pris sur eux cela. Pourquoi ? Un, pour faire le Tikkun Karet, ce qu'on appelle le Tikkun Karet, une réparation sur une faute pour laquelle on a été retranché du clan d'Israël. Et deux, Baruch Hashem, c'est aussi, tout simplement... pour acquérir de façon sublime la Torah. On rapporte qu'un homme, le soir de la veillée, s'il ne dort pas de la nuit pour étudier la Torah et qu'il arrive à la prière, il peut arriver jusqu'au Keter HaTorah. Keter HaTorah, c'est un niveau extrême dans la Torah, c'est le niveau métaphysique de la Torah. Il peut arriver à une très grande compréhension de la Torah, et d'année en année, ça ne peut que débloquer des portes dans le ciel pour qu'il comprenne de mieux en mieux la Torah. En se rappelant que je n'ai pas raconté pour rien l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un homme simple qui a fini par devenir le grand de la génération. Resh Lakish, c'est un homme malhonnête qui a fini lui aussi par devenir le grand de la génération. Si le roi des brigands a pu devenir un grand de la génération chez nous, et si un homme simple a pu devenir, à partir de l'âge de 40 ans, et avec 24 ans d'études, c'est pas du jour au lendemain, un grand de la génération, c'est tout simplement c'est pour nous magnifier à chacun d'entre nous que chacun d'entre nous est un Sefer Torah sur deux pattes. Et que chacun d'entre nous, c'est sa vie qu'il acquiert quand il décide de faire Torah Mitzvot. Et quand il renouvelle son âge de Kadosh Baruch Hu, c'est lui-même. C'est sa vie à lui qui prend en main. Le soir de Shavuot et chaque jour de l'année. À un tel point, qu'on va terminer là-dessus, quand on a parlé des noms de Yudke Vavke, on dit comment il gada vidkadash et merapa, comment le nom de Dieu va être réuni. Au moment de la Géoula, quand Mashiach va venir, on nous apporte une chose extraordinaire. Le nom de Dieu, il va plus s'écrire Yudke Vavke. Il s'écrira Yudke Yudke. Pourquoi ? Parce que ce ne sera plus Dieu qui va descendre vers nous. C'est nous qui allons élever la création vers Dieu. Oh. Et c'est à ça qu'on tend chaque veillée de Shavuot. Et c'est à ça qu'on tend durant toute la période du Homer. En vous rappelant simplement que avant la mort tragique des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, la période du Homer était une période de fête. Que le Rambam et les Tosfot nous rapportent que la période du Homer, pour eux, était une période de demi-fête. Entre Pessah jusqu'à Shavuot. C'est pas n'importe quoi. Pardon ? Premièrement, il y a différentes raisons. Parce que, un, les gens, ils sont pas. Il y a un dîne de Chol HaMoed. Les gens, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de tenir un Chol HaMoed aussi long. Parce qu'il y a des règles durant Chol HaMoed qu'on se doit de respecter. Qui sont très durs à respecter. Que quelqu'un qui dénigre les demi-fêtes, on dit qu'il n'a pas de part dans le monde futur. Alors bon, déjà, ça c'est un. D'accord ? Ça c'est premièrement, mais c'est dans l'idée de se dire que c'est une période qui est très particulière et qui est très sainte. Baruch Hashem. Et on dit que justement, comme la période du Homer aujourd'hui est devenue une période de deuil, durant les 32 premiers jours, plus exactement, dès la fin de Pessah jusqu'au 33e jour, non inclus. D'accord ? Et que la période de Tisha B'Av est aussi une période de deuil, parce qu'il y a la destruction du premier et du deuxième temple en cette date, on dit que quand Mashiach viendra, ce seront des périodes de fête. D'ailleurs, pour nous le rappeler, il y a un petit truc sympa, on voit que dans le Seder de Pessah, qui est le premier pas vers la fête de Shavuot, on voit que quand on prend le plateau, on met un œuf sur le plateau. Tout le monde a coutume de mettre un œuf sur le plateau. Si on dit que c'est en souvenir du Korban Chagiga, mais aussi en souvenir de la destruction du premier et du deuxième temple. Pourquoi ce soir-là ? Parce que selon le calendrier hébraïque, la façon dont il a été fait, la façon dont Moshe Rabbeinu nous a dévoilé de faire le calcul du calendrier hébraïque, le soir de la semaine de Pessah sera toujours le même soir de la semaine de Tisha B'Av. Pour quelle raison ? La Gemara nous dit pour nous rappeler qu'à Pessah, on aspire à la Géoula, c'est la fête de la Géoula, sortie d'Égypte, on dit Mashiach qui vient. Oui ou non? De la même façon, pour nous rappeler que Tisha B'Av, jour de la destruction du premier et deuxième temple, sera un jour de fête quand Mashiach viendra. De cette façon-là, même la période du Homer sera réinstaurée alors comme période de Chol HaMoed. Pour l'ensemble du clan d'Israël, une grande période de fête, Bezrat Hashem. Amen Keni Ratson, qu'on ait tous la possibilité de s'élever de la création avec nous vers la Kadosh Baruch Hu. Amen Keni Ratson. Il se moque, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début, tout le monde va se moquer de toi. Ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer. Il se moque, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors, comment c'était au marché? Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, parce que la prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise. À chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, lorsqu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début, tout le monde a se moqué de toi. Ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors, comment c'était au marché? Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, parce que la prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, À chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, lorsqu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors, comment c'était au marché? Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème. Tu veux pas étudier, parce que la prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise. À chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, lorsqu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors, comment c'était au marché? Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, parce que la prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, lorsqu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors, comment c'était au marché? Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, parce que la prochaine, tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début, tout le monde a se moqué de toi. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. avec la main. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise. À chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde a se moqué de toi, ils vont te mettre des ballons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que la semaine passait, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne se moquait de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit, tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début, tout le monde va se moquer de toi. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit, mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne. Les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, la semaine prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux, ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Et ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se moquer, il rentre à la maison, c'était insupportable. Insupportable. Sa femme lui dit alors comment c'était au marché. Il dit mais c'est insupportable, tu m'as envoyé avec ton âne, les gens sont tous moqués de moi, ils m'ont tous pris pour un fou. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit écoute, c'est pas le problème, tu veux pas étudier, parce que la prochaine tu retournes. Avec l'âne. Une semaine passe, il retourne. Comme ça, à chaque reprise. À chaque reprise, il va, les gens se moquent de lui. Cependant, les gens qui l'avaient vu la première semaine et la deuxième semaine, après, ils ont compris qu'il était un peu fatigué, Rabbi Akiva, pour eux. Ils sont moqués un petit peu moins longtemps. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, est arrivé un moment donné, plus personne ne se moquait de lui. Plus personne ne faisait attention à lui. Ce fameux jour où plus personne ne s'est moqué de lui, parce qu'il est rentré à la maison, il dit alors aujourd'hui, les gens se sont moqués de toi, comme elle avait coutume de le questionner à chaque fois qu'il rentrait. Il dit non, aujourd'hui personne ne m'a regardé, personne ne s'est moqué. Elle dit tu vois, lorsque tu vas aller étudier, au début tout le monde va se moquer de toi, ils vont te mettre des ballons, tombent dans les roues. Il y a un des grands de la génération, Rabbi Eliezer, qui ne va pas cesser de se...